これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Julie-Marie Parmentier.
Et à la réalisation, Luc-Jean Reynaud. C'est de Montaigne que nous vous parlerons encore et toujours dans le Gai Savoir en ce joli dimanche glacial. De Montaigne et plus particulièrement du chapitre 8 du troisième livre des essais de l'art de conférer où l'on trouve des perles d'humour, d'intelligence et le détail d'une différence fondamentale entre matière et manière. Une différence essentielle, fondatrice, utile à toute époque et en chacune des circonstances où le contenu d'un discours voudrait le dédouaner de ses intentions véritables. Mais il y a plus et mieux encore dans ce texte limpide et méandreux, de l'humour en bataille, des considérations terribles sur la bêtise érudite et l'aveu de la part de l'homme le plus savant de son temps qu'il ne passe jamais lui-même plus d'une heure sur le même livre.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Je cherche à la vérité plus la fréquentation de ceux qui me malmènent que de ceux qui me craignent. C'est un plaisir fade et nuisible que d'avoir affaire à des gens qui nous admirent et nous cèdent la place. Antisthène ordonna à ses enfants de ne jamais savoir gré ni montrer de la reconnaissance à un homme qui les louerait. Je me sens bien plus fière de la victoire que je remporte sur moi quand, dans l'ardeur même du combat, je m'oblige à plier sous la force du raisonnement de mon adversaire que je ne me sens gré de la victoire que je remporte sur lui grâce à sa faiblesse.
Vous parlez bien, Paola.
Et on reprend là où on avait arrêté la semaine dernière.
Absolument, c'est-à-dire le chapitre 8 du livre 3 des essais de Montaigne et ce texte extraordinaire avec cette phrase donc « Je me sens bien plus fier de la victoire que je remporte sur moi quand je m'oblige à plier sous la force du raisonnement de mon adversaire que je ne me sens gré de la victoire que je remporte sur lui grâce à sa faiblesse. » Un homme qui pense comme ça ne fait pas carrière en politique.
Et justement, alors un des arguments qui nous avait beaucoup, qui nous avait amené à beaucoup parler la semaine dernière, c'était de différencier et ce qui fait la différence entre philosophie et politique, et qui est la différence entre contradiction et dispute.
Oui, bien sûr. Vous mettez face à face deux hommes politiques, vous les mettez dans l'arène, vous ne verrez jamais l'un céder à l'autre, si vous voulez. Alors, en un sens, c'est un signe de démocratie, parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est le deuil de la vérité, en définitive. Hein. Personne ne détient la vérité, par conséquent, tout le monde la détient. Ou plus exactement, c'est le plus éloquent ou le mieux habillé qui la détient. Voilà, la démocratie, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la loi du plus fort. Ou du plus éloquent, ou de celui qui l'emporte en parlant plus fort que l'autre. Il ne l'emporte pas à coup d'arguments, il l'emporte à coup d'éloquence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait. Nous n'avons jamais en politique de débat où l'un des deux adversaires dit à l'autre je suis fier de la victoire que je remporte sur moi quand je m'oblige à plier sous la force de votre raisonnement, monsieur. Et en revanche, je déteste la victoire que je remporte sur vous grâce à votre faiblesse. Vous imaginez des hommes politiques fonctionner de cette manière-là dans un monde où on confond la matière et la manière, c'est-à-dire dans un monde où on tient, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, l'humilité pour de la faiblesse et l'arrogance pour de la force, un tel dispositif, un tel comportement est impossible. Ça n'est pas possible en politique. Il n'y aura jamais de débat en démocratie. Jamais. On fait tellement grand cas du débat et pourtant il n'y en a pas, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a que le déroulé, le dépliant de telle ou telle option idéologique sur tel ou tel problème. Les dépliants successifs, des monologues nerveux et successifs qui se juxtaposent ou qui se succèdent ou qui parfois se marchent sur les pieds quand les individus n'attendent pas que l'autre ait fini leur phrase pour prendre le crachoir.
Et le chapitre sur la conversation est aussi un chapitre sur la bêtise. Et pas seulement pour la dénigrer, mais pour dénigrer aussi ceux qui ne supportent pas la bêtise. Et il le dit à un moment, il dit « La sottise est une mauvaise manière d'être, mais ne pas pouvoir la supporter et s'en irriter, s'en tourmenter comme cela m'arrive, c'est une autre sorte de maladie. »
Oui. C'est de la même manière qu'il dit « Il est impossible de discuter de bonne foi avec un sot. » En fait, c'est une critique de lui-même quand il dit ça. Ne pas supporter la connerie est un signe de connerie, pour le dire vite. Et repérer la connerie en même temps est possible. Mais la connerie ne se repère pas, encore une fois, à son contenu. Elle se repère à sa forme. On peut être un imbécile et connaître 2 millions de décimales après pi, si vous voulez. Ce n'est pas un progrès d'ailleurs, c'est plutôt une performance. On peut être un imbécile et être experte en onanisme, en vésanie et en sexualité animale, si vous voulez. Peu importe, aucune culture ne remédie à la bêtise, ne soigne la bêtise. La bêtise n'est pas dans son contenu. La bêtise, elle est dans sa forme. Et quand Montaigne dit « il est impossible de discuter de bonne foi avec un sot », qu'est-ce que c'est qu'un sot ? Ben, un sot, c'est quelqu'un qui ne doute pas de ce qu'il raconte, tout simplement. Le sot se mesure au taux de certitude qu'on met en place. Il dit « pourquoi vous mettez-vous en route pour chercher la vérité avec un homme qui n'a ni pas ni allure qui vaille ?» Et là, Montaigne fait le portrait des discussions en impasse. Attendez, il le dit d'ailleurs, j'ai le texte, je sais où il est. Il est page 1121 de l'édition « L'Enly ». Je le dis pour nos auditeurs qui devraient d'ailleurs se procurer Montaigne dans l'édition L'Enly, l'excellente édition L'Enly en quarto. Voilà. Pourquoi vous mettez-vous en route pour chercher la vérité avec un homme qui n'a ni pas ni allure qui vaille ? On ne fait pas tort au sujet quand on le quitte pour s'interroger sur le moyen de le traiter. Je ne dis pas un moyen scolastique et artificiel, je dis un moyen naturel. Mais alors, quand deux imbéciles discutent ensemble, l'un va à l'est, l'autre à l'ouest, ils perdent le principal et l'égarent dans la foule des questions accessoires qui surviennent. Et c'est là que Montaigne dit qu'il aimerait mieux que son fils apprît à parler dans les tavernes que dans les écoles de la parlerie. C'est magnifique ça, les écoles de la parlerie. C'est-à-dire tous ces endroits où on vous apprend à défendre votre opinion, non pas à l'argumenter, mais à la consolider jusqu'à en faire une conviction. Et c'est ce passage-là qui caractérise la bêtise. Mais pour vous dire à quel point, Paola, la bêtise chez Montaigne ne se repère pas à son contenu, mais à sa forme. Ayons en tête, par exemple, vous vous souvenez de l'arrivée du maître de philosophie dans Le Bourgeois Gentilhomme ?
Bien sûr.
Eh ben voilà.
Oh là ! Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci.
Qu'est-ce donc ? Qu'y a-t-il, messieurs ?
Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains.
Et quoi, messieurs, faut-il s'emporter de la sorte ? Et n'avez-vous point lu le docteur traité que Sénèque a composé de la colère ? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce ? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements ?
Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession ?
Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience.
Ils ont toute l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne.
Faut-il que cela vous émeuve ? Ce n'est pas de vaine gloire et de conditions que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu.
Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on peut faire assez d'honneur.
Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée.
Moi, je soutiens tout de que la science des arts est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences.
Et que sera donc la philosophie ? Je vous trouve tous trois bien impertinents d'oser me parler avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de gladiateurs, de chanteurs et de baladins.
Allez, philosophe des chiens !
Allez, bélitre de pédant !
Allez, cuistre fiévré !
Comment marrant que vous êtes !
Monsieur le philosophe !
Infâme cocasse !
Voilà !
Monsieur le philosophe !
Restez l'animal !
Messieurs !
D'une certaine manière, on pourrait parodier ce que Montaigne dit de la mort, de la bêtise, lorsqu'il dit « on ne sait pas où la mort nous attend, attendons-la partout ». On ne sait pas où la bêtise nous attend, attendons-la partout.
Oui, vous avez raison, c'est vrai, pourquoi pas. En effet, le chapitre sur la mort, c'est le chapitre 20 du livre 1 des essais, je le dis pour nos auditeurs, et vous avez tout à fait raison de pointer un parallèle entre la bêtise et la mort. Parce qu'au fond, la bêtise, c'est la mort de la réflexion. C'est la mort de la réflexion, et l'une des manières les plus sûres de tuer la réflexion, c'est de l'étouffer sous un surcroît de savoir. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a donc le maître de danse, enfin le maître de musique, enfin tous les maîtres de Monsieur Jourdain, qui s'engueulent entre eux en faisant valoir la supériorité de leur art sur l'autre. Le mien est plus grand que le tien, pour le dire vite.
Oh là !
Arrive le maître de philosophie que sa discipline sublime range en principe au-dessus de ces querelles, de ces viles querelles d'animaux humains. Que fait-il ? Il commence par citer Sénèque, le traité d'Eira, de la colère, qu'on étudiera peut-être dans le Gai Savoir. Il explique qu'un homme sage est toujours au-dessus des injures. Il fait l'éloge de la modération. Il explique que les hommes ne doivent pas discuter entre eux de vaines gloires. Et juste après, Il dit, mais enfin quand même, vous charriez, arrêtez de me parler de vos disciplines de merde. Rien n'égale, évidemment, la philosophie. Et à l'instant où il dit ça, c'est-à-dire à l'instant où il se met en compétition avec les autres, il déchoit du piédestal imaginaire qu'il avait forgé, l'effet comique est irrésistible, et il devient semblable aux autres. En d'autres termes, la philosophie ne préserve pas de la bêtise, c'est une grande bêtise de penser le contraire. Et Montaigne a cette phrase, il dit, dans le parlant du savoir, de la connaissance, il dit « dans une main c'est un sceptre, dans un autre c'est une marotte. J'aime et j'honore le savoir autant que ceux qui l'ont, et en son véritable usage, c'est la plus noble et puissante acquisition des hommes. » Très bien. Mais chez ceux, et il y a un nombre infini de gens de ce genre, qui établissent sur lui leurs capacités et leurs valeurs fondamentales, qui font dépendre leur intelligence de leur mémoire, qui se cachent à l'ombre d'autrui et ne peuvent rien s'en livrer, je le hais, si j'ose le dire, un peu plus que la bêtise. La vraie bêtise, c'est la bêtise incurable. C'est la bêtise déjà guérie. On en avait parlé quand on avait parlé, vous vous souvenez de... C'était Clément Rosset, dans le réel et son double.
Oui, et vous aviez même eu cette phrase qui m'était restée, c'est pas parce qu'on écoute France Culture qu'on est moins con que les autres, enfin qu'on est plus intelligent.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut écouter France Culture, c'est la meilleure radio qui soit, et vive France Culture, et vive les auditeurs toujours plus nombreux de France Culture. Mais, il faut écouter France Culture parce qu'on y apprend notamment que c'est pas parce qu'on écoute France Culture qu'on est moins con que les autres, justement. Et qu'enfin, une radio qui admet le fait que la culture qu'elle transmet n'est pas une garantie contre la bêtise, si vous voulez. C'est ça l'intérêt de France Culture, en l'occurrence. Disons qu'un spectateur de TF1 qui ne doute pas de la nullité de ce qu'il regarde est peut-être de meilleure compagnie qu'un auditeur intégriste, comme il y en a de France Culture, qui ne doute pas de la qualité de ce qu'il écoute. Voilà, c'est la seule différence, si vous voulez. Mais c'est une différence fondamentale. Si l'on réduit la bêtise à ces deux déterminations, que sont un, la bêtise de l'ignorant, et deux, la bêtise du savant est beaucoup plus redoutable que celle de l'ignorant, parce qu'elle est incurable, parce que le savant est déjà guéri, parce qu'il croit qu'avec l'intelligence, il a cessé d'être bête, avec la culture, il a cessé d'être ignorant. Or, Montaigne, qui est l'homme le plus cultivé de son temps, ne cesse de demander ce qu'il sait, de dire « que sais-je », de le brandir comme un étendard. Et Montaigne, qui est l'homme le plus intelligent de son temps, ne cesse de décrire ses propres travers et son incapacité propre à supporter la bêtise où sa propre bêtise se reconnaît.
Et quand Montaigne dit que le monde est une école de recherche...
Ah, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Juste un point sur la bêtise. J'y viens, je garde ça en tête, mais... Nos auditeurs ont en tête l'extrait du Bourgeois Gentilhomme qu'on leur a diffusé dans la version où Michel Serrault incarne M. Jourdain. Écoutez Montaigne. « Prenez un maître, est-ce l'être ? Conversez avec lui. Pourquoi ne nous fait-il pas sentir cette supériorité due à son art et ne ravit-il pas les femmes et les ignorants comme nous sommes par l'admiration de la solidité de ses raisonnements, de la beauté de son ordre ? Pourquoi ne nous domine-t-il et ne nous persuade-t-il comme il veut ? Un homme qui a de si grands avantages pour le fond et la façon de conduire la discussion, pourquoi mêle-t-il à son escrime les injures, le manque de modération et la rage ? » C'est quand même incroyable. C'est, il a fait... 140 ans avant, 150 ans avant, le portrait du maître de philosophie dans le Bourgeois Gentilhomme. Votre question, Paola.
Oui, non, puisque vous parlez de... La question, c'est que Montaigne sait qu'il ne détient pas la vérité. Et ça se retrouvait dans cette métaphore qu'il fait avec la chasse, et où il finit par dire que le monde est une école de recherche.
L'agitation et la chasse sont proprement notre gibier. Nous ne sommes pas excusables de mal conduire cette chasse et sottement. Ne pas réussir à prendre le gibier, c'est autre chose. Car nous sommes naturellement faits pour chercher la vérité. La posséder appartient à une plus grande puissance. Elle n'est pas, comme disait Démocrite, cachée dans le fond des abîmes, mais plutôt élevée à une hauteur infinie et connue de Dieu. Le monde n'est qu'une école de recherche. Dans ces exercices, ce n'est pas à qui atteindra le but, mais à qui fera les plus belles courses. Autant peut faire le saut celui qui dit vrai que celui qui dit faux. Car ce qui est en cause pour nous, c'est la manière de dire, non la matière.
Vous avez vu Rox et Rookie, Paola ?
Non, encore une fois...
Vous n'êtes pas encore assez âgé pour ça. Rox et Rookie est un film formidable parce que bon, ça c'est une scène de chasse dans Rox et Rookie avec les orchestrations de Disney qui étaient très belles à l'époque, qui le sont toujours d'ailleurs. C'est l'histoire d'un chien, je ne sais jamais qui est Rox et qui est Rookie, il faut que vous me pardonniez, mais enfin c'est un chien et un renard, un chien de chasse et un renard qui sont bons amis. jusqu'au moment où le chien de chasse doit chasser le renard. Et il y a un dialogue comme ça entre le chien de chasse et le renard dans lequel c'est la lutte du déterminisme. Je suis un chien de chasse et je dois te chasser contre l'amitié, contre cette valeur acquise, contre toute attente du renard libre et du chien de chasse soumis à son maître. Et c'est un film très intéressant, notamment pour cette réflexion qu'il transmet impunément, qui est un débat montagnien, qui est un débat de la philosophie des Lumières, ainsi proposé à nos chères têtes blondes, sauf vous donc qui n'avez pas vu ce film. Vous avez parlé de la métaphore de la chasse et vous avez bien raison, Paola, parce que c'est un texte fondateur ici. C'est un des textes les plus importants des essais, je crois.
Cette métaphore de la chasse, en fait, on la retrouve sous d'autres figures, par exemple chez Platon, dans sa comparaison entre l'amour et la philosophie, enfin l'amour de la sagesse.
Oui, tout à fait, puisque l'amour de la sagesse est un amour fou, puisque ce qu'on désire ou ce qu'on aime, c'est ce dont on manque. Donc aimer la sagesse, c'est manquer de sagesse. Et la sagesse se dérobe toujours à son amant, comme la vérité d'ailleurs se dérobe toujours. Et on a une figure classique de la vérité qui est comme l'étoile du Nord, au fond, qui se dérobe à notre prise et qui en même temps oriente notre existence. Et on pourrait se dire que dans ce texte, le texte de Montaigne là, que nous venons d'entendre, au fond, Montaigne ne fait que reprendre cette image. Et des phrases vont dans ce sens, hein. Nous sommes naturellement faits pour chercher la vérité. La posséder appartient à une plus grande puissance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on chasse ? Ben, on course le gibier, mais en définitive, même quand on attrape le gibier, on n'en a jamais assez. C'est pas le gibier qui compte, c'est la chasse elle-même. A priori, on pourrait se dire que ce texte désigne une conception classique de la philosophie comme amour de la sagesse. Et en effet, c'est le cas. Une sagesse hors d'atteinte. Qu'est-ce que l'homme, dans le temps de la vie ? Un philosophe. C'est-à-dire le chasseur d'une vérité que son existence, c'est-à-dire le fait d'être mortel, lui interdit d'atteindre. Notre condition misérable, ténue, ne nous permet pas d'embrasser une vérité si vaste et qui, elle, est impérissable. Ou plus exactement, nous permet d'en avoir le désir, de l'embrasser de façon fugace, mais nous expose à retomber en permanence dans notre finitude. Nous n'avons pas les moyens de saisir la vérité, c'est pour ça que nous sommes philosophes et non pas zophes tout court, si vous voulez. On n'est pas sage, on est amoureux de la sagesse. Nous sommes naturellement faits pour chercher la vérité, la posséder donc appartient à Dieu, c'est-à-dire à une plus grande puissance. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Et en fait, encore une fois, vraiment cette émission ne vaut que si elle invite nos lecteurs et les en persuade à se plonger vraiment dans la lettre du texte et dans ses nuances infinies. Parce que cette métaphore, qui a priori ne fait aucune difficulté d'intelligibilité, de compréhension, est en réalité cette métaphore donc de la chasse, avec l'objet qui se dérobe, pour imaginer la philosophie, le rapport à la sagesse, etc. La métaphore, elle est tempérée par le fait que l'enjeu, du coup, ça n'est pas de se saisir de la vérité, car la vérité n'est pas à notre portée. Je veux dire, il faut se mentir à soi-même comme aux autres pour croire qu'on détient la vérité. Donc, c'est déjà une première atténuation. La vérité est tellement notre but qu'au fond, le but, ça n'est plus de s'en saisir. La vérité, elle est tellement hors d'atteinte qu'en définitive, attraper la vérité ne doit pas être notre but, si vous voulez. Elle oriente tellement notre existence, on fait fête à la vérité, on la recherche. Bon, mais du coup, on doit renoncer à s'en saisir. Vous savez, c'est Camus qui dit un jour dans une réponse à Sartre, quel courage il fallait pour répondre ça à Jean-Paul Sartre au début des années 50, « Je serais de droite si la vérité y était ». Ce qui est une phrase d'un courage à l'intérieur de la gauche de plomb des années 50 qui est extraordinaire, parce que voilà un homme qui dit « Je détiens si peu la vérité ». Ou plus exactement, j'aime tant la vérité que je vois à quel point je la détiens peu et je la détiens si peu que si elle était de droite, eh ben je serais de droite. C'est très beau, ça. Bon, donc, au fond, en fait, c'est assez logique. On ne chercherait pas la vérité si on pouvait la saisir. Et c'est précisément parce qu'elle nous échappe ou parce qu'elle pourrit quand on croit l'attraper, parce qu'elle tombe en déliquescence, que la vérité est notre objet. Oui, Paola.
Vous parliez de glissement subtil et il y a un glissement même dans la métaphore puisqu'on passe d'une métaphore de la course, de la chasse, à presque une métaphore équestre avec faire une belle course.
Oui, bien sûr.
Et on a quitté le domaine des chiens pour aller plus vers le domaine équestre, très cher à Montaigne aussi.
Oui, vous avez tout à fait raison. En particulier chez Montaigne, bien sûr, puisque Montaigne faisait grand cas du cheval et on parlera de son accident de cheval. Montaigne a eu un accident de cheval. Mais ce que Montaigne aime avec le cheval, c'est le trot. C'est pas le pas qui l'ennuie, c'est pas le galop qu'il trouve dangereux, c'est le trot. Parce que le trot implique, pour le cavalier, je parle en toute ignorance de cause, et donc je m'en excuse auprès de ceux de nos auditeurs qui savent de quoi on parle, c'est quelqu'un qui n'est jamais monté sur un cheval qui le dit. Mais Je parle sous le contrôle des gens qui le savent ou qui ont fait cette expérience, peut-être vous, Paola. Le trop me semble devoir exiger, en tout cas c'est ce que Montaigne en dit, de la part du cavalier la moitié de l'effort, en définitive. Pour bien se tenir sur un cheval qui est au trot, pour épouser ce rythme, il faut faire la moitié du chemin soi-même. Et c'est en cela qu'il est attentif au trot, parce que le trot, c'est exactement la figure montagnienne de l'équilibre. D'un équilibre qui n'est pas un compromis, qui n'est pas une synthèse, mais qui est au contraire l'affirmation de tendances contradictoires. Enfin, on ne peut pas dissocier l'amour que Montaigne porte à l'équitation du fait que l'essence, la quintessence de l'équitation, et non pas de l'éducation, c'est le trot chez lui. Mais il n'y a pas que ça dans ce texte. Il y a aussi le fait que l'une des conséquences du fait que la vérité est hors d'atteinte, eh bien c'est que ce qui compte, comme le dit lui-même Montaigne, ça n'est pas le gibier, c'est la chasse. Ce qui compte, ce n'est pas la prise, c'est l'excellence de la démarche qui doit nous y conduire. On trouve une idée semblable d'ailleurs dans les lettres à un jeune poète de Rilke. Ce qui compte, ça n'est pas l'objet de la démarche, c'est la façon de faire. Ce qui compte, ça n'est pas le poème, c'est la composition. Plus exactement, c'est la façon de le composer. C'est la sèse qui a permis la composition de ce poème. Chez les stoïciens, ce qui compte, ça n'est pas le cœur de la cible, c'est la rectitude du geste. Pour l'archer, c'est la fameuse métaphore de l'archer qu'on trouve aussi chez Confucius. Donc c'est un lieu commun au fond de la philosophie, mais c'est un lieu commun génial. Il s'agit de compenser l'éloignement incurable du but qu'on se donne par l'excellence de la démarche qui finalement devient à elle-même sa propre fin. Il faut tenir le but pour ce qu'il est, c'est-à-dire un graal secondaire. On ne peut pas y arriver. En philosophie, dites pas.
Oui, le Graal est une très bonne image, puisque même dans le roman de Chrétien de Troyes, Perceval, le Graal a un statut qui est presque secondaire au reste de l'histoire, à la quête de Perceval.
Il est le prétexte d'une quête qui est à elle-même sa propre fin, qui est au fond un voyage intérieur.
Et ce n'est pas pour rien que le roman est inachevé.
Évidemment. Il ne peut pas être achevé. Pourquoi ? Parce que la vie est inachevée. Pourquoi la vie est inachevée ? Parce que la vie est provisoire. Le fait que la vie se termine est ce qui la condamne à être inachevée. Donc c'est ce qui nous met en situation de ne pas suspendre notre bonheur à l'obtention d'abord de quelque chose qui ne dépend pas de soi et surtout de quelque chose dont on n'a pas les moyens. Quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on n'a pas les moyens d'attraper. Et ça, c'est assez fort parce que si on tient la philosophie pour amour de la sagesse, on peut assez vite considérer, c'est d'ailleurs la critique que fait Nietzsche d'une telle définition de la philosophie, eh bien que, au fond, si la philosophie est amour de la sagesse, c'est un exercice de frustration. On ne l'attrape jamais. Mais si on en vient à se dire, comme Montaigne, que puisque la vérité est hors d'atteinte, ce qui compte, c'est la façon de nous y rendre, et non pas la vérité elle-même, si on secondarise le Graal, si vous voulez, seul compte alors l'effort, l'obstination, la persévérance, la précision. On s'en fout de saisir la vérité. D'abord, c'est trop difficile ou trop facile. Dire des vérités, ça peut être sortir des platitudes, enfoncer des portes ouvertes, comme ça peut être totalement hors d'atteinte et avoir le fin mot de toute chose. Dans les deux cas, qu'on sorte des vérités plates, des truismes, des micro-trottoirs, ou bien qu'on se donne pour but à atteindre dans le temps de la vie une vérité qui n'est pas faite pour nous, dans les deux cas, on n'aime pas beaucoup la vérité, en définitive. Eh bien, en revanche, ce qu'il faut, c'est comme dit Montaigne, parler avec méthode et sagesse et avec compétence. Et cela, peu d'hommes le peuvent. Et c'est de cela qu'il fait grand cas. C'est en effet, dit-il, toujours avoir une mauvaise humeur tyrannique que de ne pas pouvoir supporter une façon de penser différente de la sienne. L'intérêt, c'est quoi ? C'est pas de connaître la vérité. L'intérêt, c'est de connaître sa propre impuissance à la saisir au point de supporter un autre discours que le sien.
Oui, c'est en cela que Montaigne a raison de dire, par exemple, que les sages ont plus à apprendre des fous que les fous des sages.
Vous avez raison, Paola. Tenez, lisez le texte.
Il y a peut-être certaines personnes qui sont de ma nature à moi, qui m'instruisent mieux par opposition aux modèles que par leur imitation, et en les évitant qu'en les suivant. C'est cette méthode d'instruction qu'avait en vue Caton l'Ancien quand il disait que les sages avaient plus à apprendre des fous que les fous des sages.
C'est beau ça. Hein.
Oui, c'est marrant. Et est-ce que ça vous... Enfin, c'est marrant, c'est un tic de langage, mais bon. Ça ne vous rappelle pas aussi, quand on avait étudié l'année dernière, il y a longtemps, les méditations métaphysiques de Descartes, et on s'était arrêté sur le moment, je ne sais plus dans quelle méditation...
C'est la première.
Dans la première, où en parlant des fous, il dit... Il les balait d'un revers de la main en disant « Mais quoi, ce sont des fous et je serais de même si je m'y attardais, etc. »
Voilà, et je serais pareil à eux. Je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. C'est dans la première méditation métaphysique de Descartes. On l'avait évoqué d'ailleurs, bref rappel pour nos auditeurs, il y a deux interprétations possibles de cette phrase de Descartes. Il y a l'interprétation foucauldienne qui considère qu'au fond, Descartes exclut la folie du cercle de la raison et par conséquent donne le jour, en un sens, pour le dire très vite, hein, et je m'en excuse auprès des spécialistes de Foucault, mais bon, donne le jour, ce faisant, aux institutions qui prétendent soit enfermer le malade, soit le guérir, ce qui est au fond la même chose, c'est-à-dire à ceux qui estiment que la raison a le privilège de la sagesse. D'un autre côté, l'interprétation de Derrida, qui est plus charitable pour Descartes, qui considère qu'au fond, la rêverie comme la folie constitue pour Descartes des dangers avec lesquels il essaie de se dépêtrer, pour le dire très, très rapidement et très grossièrement. Mais cette phrase renseigne aussi sur le neveu de Rameau. Diderot avait lu Montaigne. « Je suis votre fou, mais vous êtes peut-être le mien », dit Rameau au philosophe. Et souvenez-vous que le neveu de Rameau ne déstabilise jamais tant le philosophe que quand il ne délire pas. Quand le neveu de Rameau fait l'homme orchestre, ou le fou dingue, ou du n'importe quoi, le philosophe est là, se retranche dans une sagesse, dans une sérénité, dans un calme qui lui permet de juger son interlocuteur et de considérer qu'il est fou. Quand Rameau raisonne, quand Rameau argumente, le philosophe ne sait plus quoi faire. Et Foucault, encore lui d'ailleurs, dans son Histoire de la folie, fait grand cas du neveu de Rameau en expliquant à quel point Diderot, de ce point de vue, a dynamité complètement la structure bourgeoise, au fond, d'une famille qui voudrait exclure la folie. Et c'est pas un hasard, puisque Rameau a lui-même été exclu d'une maison cossue. Et il s'en veut beaucoup, parce que du coup, il n'a plus rien à manger. Mais quand Montaigne cite Caton, donc les sages ont plus à apprendre des fous que les fous des sages, c'est une phrase qu'on peut tirer dans une infinité de directions. Là encore, c'est Sartre par exemple. Tiens, Sartre disait toujours qu'il préférait parler théâtre avec une actrice que métaphysique avec Raymond Aron. C'est exactement la même chose, en un sens, si vous voulez. C'est la même affaire. De la même façon, la duchesse de Guermantes se présente au narrateur sous un angle favorable, c'est-à-dire, je connais la littérature, je cite Victor Hugo, Vigny, Musset, etc., etc. Bon. Et le narrateur la trouve hyper mondaine et totalement faubourg Saint-Germain quand elle la joue cultivée, érudite. Alors que ça impressionne beaucoup la princesse de Parme, le prince de Sagan, le duc de Guermantes qui dit « ma femme est formidable, elle sait tout ». Donc c'est bon pour plaire aux mondains. Mais le narrateur, à qui on la fait pas, si vous voulez, qui a lu Montaigne lui aussi, se dit « quand elle fait la maline, elle est vraiment faubourg Saint-Germain ». C'est la même affaire, si vous voulez. La duchesse de Guermantes, elle est faubourg Saint-Germain quand elle a l'air érudite. Mais en revanche, quand elle est duchesse de Guermantes, c'est-à-dire quand elle allume ses yeux pour la soirée, quand elle plaît à tout le monde, quand elle fait la grande dame plus que la coquette, alors là, elle est vraiment romanesque. Et si on remplace le fou et le sage par l'écrivain et sa muse, on retrouve ici exactement la dialectique proustienne du rapport d'un auteur à l'objet qu'il se donne. Odette raconte son histoire avec Swann au narrateur. Elle embellit, elle ajoute des détails, parce qu'elle pressent que le narrateur peut peut-être mettre ça dans un roman. Ça lui ferait bien plaisir d'être dans un roman, Odette. C'est réussi, d'ailleurs. Ça lui ferait bien plaisir. Mais dans le même temps, le narrateur sourit intérieurement en l'entendant augmenter ses mérites ou bien enjoliver sa propre histoire. Il sourit parce que c'est le moment où, précisément, elle croit que la matière de ce qu'elle a vécu donne plus d'intérêt que la manière de ce qu'elle vit. Au fond, ce qui intéresse le narrateur, c'est ce qu'est Odette quand elle veut enjoliver son histoire. Ça n'est pas les détails de l'histoire qu'on enjolive.
Mais pour en revenir au fou et au sage, ce que je saisis mal, c'est que pour Montaigne, il s'agit de s'instruire par opposition et pas d'apprendre réellement. C'est presque un acte. Il dit par opposition au modèle. Donc prenant les fous et puis faire le contraire de ce que font les fous.
Alors, c'est une autre dimension de son texte et vous avez tout à fait raison. On apprend des fous dans la mesure où ils nous déstabilisent et on apprend des fous dans la mesure où ils nous servent d'antimodèle. Dans les deux cas, ce qui compte, encore une fois, ça n'est pas le contenu d'une folie. Ce qui compte, c'est l'abîme d'altérité que la folie nous propose et auquel il faut être attentif. Alors, que cet abîme d'altérité féconde notre propre nature en y distillant la semence d'une différence féconde et fertile, ou que cet abîme d'altérité nous serve d'antimodèle. Et il y a là, ici, en filigrane et en creux chez Montaigne, l'idée, par exemple, qu'il n'y a pas de bons parents. Des parents exemplaires, des parents qui voudraient donner un exemple parfait à leurs enfants, qui voudraient ne jamais se tromper dans la façon de l'éduquer, dans les conseils qu'ils donnent, dans l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, etc., etc., peuvent parfaitement produire des enfants héroïnomanes, drogués, fous et en situation d'échec scolaire, si vous voulez. Il n'y a pas de garantie. Alors que des parents héroïnomanes et eux-mêmes en situation d'échec scolaire peuvent parfaitement engendrer un enfant qui développe un surmoi surdéveloppé et qui lui-même se conduit avec lui-même comme un asset et comme un homme intransigeant. C'est-à-dire c'est un des arguments contre ceux qui s'opposent au mariage pour tous. Disait oui, c'est la mort de la famille, etc., etc. Et puis surtout, c'est une structure fondamentale, le père et la mère, les psychanalystes rejoignant ici la religion, faisaient grande guerre à l'hypothèse du mariage pour tous en expliquant que c'était un déni symbolique, une catastrophe symbolique, etc. Bien. Il faut dire effectivement que le complexe d'Œdipe ne sort pas affermi par la possibilité du mariage pour tous, ou du mariage entre personnes de même sexe. Mais c'est absurde pour une raison toute simple. C'est absurde et on peut raisonner par l'absurde d'ailleurs. Un tel argument serait recevable si une famille structurée était la garantie d'une éducation réussie. Mais en général, quand dans les manifs on prétend préserver la famille, ce qu'on préserve c'est souvent la loi du silence dans les familles. C'est les non-dits dans les familles, c'est l'omerta dans les familles, ce sont des tragédies, c'est festen si vous voulez. Il y a des tas de familles unies, structurées, avec un patriarche qui règne sur tout ça, des familles pyramidales, ordonnées où chacun est à sa place, qui sont en réalité des mondes d'inceste, de crimes et potentiellement des désastres psychologiques. La famille classique des parents de sexe différent qui élèvent leurs enfants dans la vertu, la probité et les bonnes manières n'est en rien une garantie de vertu et d'éducation réussie. C'est l'un des sens de la phrase de Montaigne.
Alors,
et je dis un des sens, en trois mots.
En parlant de non-dit, d'omerta, vous nous amenez sur le terrain de la psychanalyse et figurez-vous que c'est déjà chez Montaigne aussi. Montaigne avait prédit aussi la psychanalyse. Donc c'est toujours dans le même chapitre, le chapitre sur la conversation.
Allez-y.
J'entends quotidiennement dire par des sots des mots qui ne sont pas sots. Ils disent une bonne chose, sachons jusqu'où ils la comprennent. Voyons par où ils la saisissent intellectuellement. Nous les aidons à employer ce mot juste et ce beau raisonnement qu'ils ne possèdent pas. Ils les ont seulement en garde. Ils les auront mis en avant par hasard et à tâtons. C'est nous qui les mettons pour eux en valeur et en honneur. Le passage est long, donc vous m'autorisez à sauter quelques lignes.
Vous avez tous les droits.
J'aime à laisser embourber et empêtrer ces hommes-là encore plus qu'ils ne le sont, et si profondément, s'il est possible, qu'à la fin, ils se voient tels qu'ils sont.
Je peux vous poser une dernière question ?
Quoi ?
Vous mangiez quoi ?
Quoi ?
Vous mangiez quoi ?
Quand ?
Le soir de la mort de votre père, vous mangiez quoi ?
Putain, mais je m'en souviens plus.
Vous ne vous en souvenez plus ?
Ça remonte à près de 35 ans.
Que mangeait votre père ?
Je viens de vous dire, je me rappelle plus et vous me faites chier avec mon père.
Essayez. C'est une simple question. Qu'avait mangé votre père ?
Penne.
Bien. Et qu'avez-vous mangé ?
Ravioli.
Les plats étaient déjà sur la table ?
Non, on nous servait.
Vous avez vu venir les tueurs ?
Un seul. Il nous amenait un plat.
Votre père aussi l'a vu ?
Non. Je savais que ce type était louche.
Pourquoi, Paul ?
Le pantalon. Trop bien pour un simple serveur.
Alors il s'est avancé vers la table.
Je l'ai pas quitté des yeux.
Et vous n'avez rien dit ?
Non. À cause de la colère de mon père, j'étais incapable de dire quoi que ce soit.
Et vous lui en vouliez ? Et que s'est-il passé ?
J'ai jamais vu l'autre tireur. Ma mère a poussé un hurlement.
Vous vous estimez responsable ?
Je crois que j'aurais pu le sauver.
Mais vous étiez furieux contre lui.
Oh, j'aurais dû dire quelque chose.
Ça ne l'aurait pas sauvé.
Je l'ai tué.
Vous ne l'avez pas tué, Paul. Vous ne l'avez pas tué, vous lui en vouliez, mais sa vie était dangereuse.
Je l'ai laissé mourir. Je l'ai laissé mourir.
Alors, Raphaël, encore une fois, pourquoi, après Rocks et Rookies, pourquoi Mafia Blues avec Robert De Niro ?
Avec Robert De Niro, vous l'avez vu, ça, pour le coup ?
Oui, oui.
Eh bien, vous vous souvenez de ce film, hilarant. Robert De Niro, caricature de lui-même, en super mafieux, etc. Bah, il a un problème, il bande plus, pardon, c'est comme ça que ça se dit. Et c'est un vrai problème, parce que ça a plein de conséquences, évidemment, sur le règne qui est le sien, sur la tribu des mafieux. Et donc, on l'envoie chez un docteur, comment ils appellent ça ? Mind Doctor, je ne sais plus, enfin un médecin de l'âme, ouais, un psychanalyste, Billy Crystal. Et il y va, et c'est hilarant. Et on comprend que le traumatisme de Robert De Niro, c'est qu'il a laissé son père, avec qui il était fâché quand il avait 12 ans, se faire assassiner, alors qu'il savait que le tueur était dans la salle, se faire assassiner. Il n'a pas prévenu son père, au fond, du danger qui le menaçait. Et ça fait 40 ans qu'il vit avec ce souvenir, sans le savoir. Et ce souvenir, à un moment, précipite en crise, en névrose. Et De Niro a besoin, pour se soigner, d'en venir au souvenir qui est le sien, et donc d'opérer ce que les psychanalystes appellent un transfert, c'est-à-dire de tomber dans les bras de son psychanalyste en lui disant « Papa, papa, je suis désolé, je te demande pardon ». Or, c'est très fort parce que, et c'est un très bon film pour ça, parce qu'au fond, De Niro fait le travail tout seul. L'analyste ne lui donne que très peu de conseils. Et le silence des analystes, ce silence si déconcertant, a ceci de déconcertant qu'il met l'individu en situation de dialogue avec lui-même. On ne parle pas à un mur quand on parle à quelqu'un de silencieux. Au contraire, en un sens, on parle à une page blanche. Une page blanche sur laquelle vient s'inscrire ce que soi-même on n'ose pas dire ou se dire. Et ce travail-là, effectivement, vous avez raison avec le texte que vous avez cité, Montaigne le décrit. Il laisse les gens s'embourber jusqu'à ce qu'ils en apprennent. Qu'est-ce que c'est la formule exacte? La fin?
J'aime à laisser embourber et empêtrer ces hommes-là encore plus qu'ils ne sont et si profondément s'il est possible qu'à la fin, ils se voient tels qu'ils sont.
Voilà, ils se voient tels qu'ils sont. Laisser quelqu'un s'embourber jusqu'à ce qu'à la fin, il se voit tel qu'il est. Je ne connais pas, mais je n'y connais rien, personnellement, de meilleure définition d'une psychanalyse réussie.
Oui, et alors ça me fait penser à une fable de La Fontaine très intéressante qui est L'homme et son image. Et justement,
je connais pas.
C'est dans le premier livre, qui sont pourtant les fables les plus faciles normalement, le premier livre. Et celle-là est très complexe parce que c'est une déformation du mythe de Narcisse. Alors, à la différence du mythe d'Ovide, cette fois-ci, le Narcisse de La Fontaine est laid. Et il ne supporte pas de se voir dans les miroirs que les gens lui tendent parce qu'il pense que ces miroirs le déforment et montrent une image laide alors que lui, il est persuadé d'être beau. Donc il s'en va, donc, je ne sais plus, je ne l'ai pas sous les yeux, donc il s'en va.
On ne l'a ni sous les yeux ni en tête,
voilà,
disons-le à nos auditeurs. Mais allez-y.
Donc, allez-y.
On les renvoie au texte. Redites le nom du texte quand même.
L'homme et son image, c'est dans le livre 1, ça j'en suis sûre. Et donc il s'en va dans une cabane où il est sûr qu'il ne trouvera pas de miroir, etc. Sauf que par là passe un ruisseau d'eau pure et donc il ne peut pas s'empêcher de se regarder dans ce ruisseau et l'image qu'il voit est très laide parce que c'est lui qui voit et en même temps très séduisante parce qu'il voit la vérité et il essaye de ne pas regarder ce ruisseau et pourtant il y vient toujours parce que et je crois que La Fontaine dit mais quoi, le canal est trop beau et donc il ne peut s'en éloigner qu'avec peine et on finit par savoir qu'en fait ce canal est une image des maximes de La Rochefoucauld. Et donc c'est formidable parce
que
le parallèle avec la psychanalyse est aussi très intéressant.
Et on retrouve l'idée proustienne que chaque lecteur est d'abord le lecteur de lui-même et que lire les maximes de La Rochefoucauld, c'est supporter d'avoir sous les yeux un miroir trop fidèle pour être digeste. C'est tout le problème d'ailleurs des moralistes. On a voulu les discréditer en les faisant passer soit pour des mauvais coucheurs, soit pour des pessimistes forcenés, soit pour des gens un peu précieux, au fond, qui s'attardent sur des choses anecdotiques et secondaires, alors qu'il n'en est rien. Mais ce qui est intéressant, ça n'est même pas tant ce que les moralistes nous apprennent, que la façon dont on les discrédite. Le spectacle est dans la salle. C'est-à-dire, le spectacle, il est chez celui qui n'aime pas le moraliste et qui a toute une série d'arguments à l'appui de cela, alors qu'en réalité, la raison pour laquelle il n'aime pas le moraliste, c'est que le miroir qui lui est ainsi tendu est un miroir désagréable. Pourquoi il vient m'emmerder, celui-là? Se demande celui qui, par exemple, lisant La Bruyère, lit « Vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour. Vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. » Voyez la fidélité du reflet et la difficulté qu'il y a à entendre cela, de l'intérêt qu'il faut porter aux arguments qui nous permettent de discréditer une parole, justement. Nous discréditons une parole parce que cette parole nous est insupportable. Et les arguments qu'on avance, la matière des arguments qu'on avance, est bien souvent l'alibi du refus de voir ce que de tels textes sont capables de nous montrer.
Il y a dans ma maison quelqu'un dont je me méfie. S'assied à ma place, qui me ressemble comme un frère, qui respire mon air. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, sourit mais je le connais bien. glace, dont le regard me glace, il me laissera pas en paix. Dehors, je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas de je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Je me souviens de l'homme que j'étais, mais un traître fait disparaître. Et moi qui je suis, chasseur ou chassé, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi dans la glace.
C'est la deuxième émission qu'on consacre à Montaigne et au chapitre sur la conversation. Ça serait bien qu'au terme de cette émission, on ait quand même saisi le centre du chapitre qui est la distinction entre matière et manière, et qui fait dire à Montaigne qu'autant peut faire le saut celui qui dit vrai que celui qui dit faux.
On n'aura pas le temps de faire cette distinction, parce que c'est une distinction trop profonde, trop puissante. Disons juste, à titre liminaire, que la distinction que fait Montaigne entre la manière du dire et la matière du dire, au profit de la manière du dire, hein, il dit nous sommes sur la manière du dire et non sur la matière du dire, n'est pas un éloge de la forme aux dépens du fond. Parce que si on entend manière et matière, on se dit, bah voilà, il préfère la manière à la matière, il préfère la forme au fond. Ce que dit Montaigne, quand il parle de manière et de matière, c'est que la manière, c'est la structure d'un discours. La matière, c'est son intention. Donc, ce n'est pas la forme contre le fond, c'est la structure contre l'intention. Et de ce point de vue, avec cette distinction, Montaigne se donne et nous donne les moyens de repérer des similarités, des similitudes troublantes entre des discours ouvertement antithétiques, ostensiblement contradictoires. On a pu dire pendant la campagne présidentielle, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se ressemblaient. Alors, il est vrai que certains commentateurs politiques se sont essayés pendant la campagne présidentielle à repérer un poujadisme en commun, par exemple. Ce que je dis ici ne m'engage pas moi-même, puisque je ne fais que rapporter les propos de ceux qui commentaient l'activité politique pendant la période électorale, en expliquant que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avaient en partage un certain nombre de discours qui culminaient notamment, d'ailleurs, dans une forme de nationalisme, c'est-à-dire de fermeture des frontières en définitive ou de haine de la mondialisation. Enfin, qu'il y avait toute une série de points communs entre les deux. Alors, je ne discute pas de la pertinence ou de l'impertinence ou la non-pertinence de cette comparaison, mais indépendamment du fond, ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est que c'est un exercice montagnien. La manière, Mélenchon-Le Pen, est semblable, quand bien même la matière serait ouvertement différente. La gauche de la gauche contre la droite, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on est à la gauche, face à la droite de la droite, qu'on ne se ressemble pas. Et tous ceux qui s'attachent ou s'attardent sur les ressemblances qu'il peut y avoir parfois entre des discours qui se présentent comme résolument antagonistes, mettent en œuvre cette distinction de Montaigne entre la manière et la matière. Le contenu d'un discours ne dédouane pas celui qui le tient, ne le disculpe pas, ou plus exactement ne le distingue pas de celui à qui, par son discours seulement, il s'oppose. Au fond, ce que dit Montaigne, c'est que non seulement ça n'est pas une opposition de la forme et du fond, l'opposition de la manière et de la matière, mais c'est même une façon de considérer que la vraie superficialité, c'est la matière. C'est-à-dire l'intention du discours, au fond. C'est une manière de dire que, de la même manière que Nietzsche pouvait dire qu'on était superficiel par profondeur, c'est par profondeur qu'il faut être superficiel, on comprend comment Montaigne est un lecteur de Nietzsche. C'est par superficialité qu'on prétend s'en tenir au discours que l'on tient. Vous savez, dans Lady L, le père de Lady L, Lady L est l'histoire d'une prostituée qui devient, par le hasard de la vie, la deuxième dame de la gentry anglaise. C'est un roman génial de Romain Gary. C'est une prostituée qui naît aux Halles, etc. Et dont le père est un féministe acharné. Ce qui ne l'empêche ni de caresser sa propre fille, ni de laisser sa femme au fourneau, ni d'humilier les femmes quand il les voit. Et là encore, on a un retour de cette différence montagnienne entre manière et matière. Le sentiment, le lieu commun qui consiste à dire que les extrêmes se ressemblent. Ou que, par exemple, au moment des débats sur le traité constitutionnel européen, les partisans du non, qui ressemblaient à un patchwork qui allait de la LCR, feu la LCR, au Front National, les partisans du non, en vérité, avaient en commun un certain nombre de points auxquels ils n'adhéraient pas pour les mêmes raisons, mais qu'ils défendaient de la même manière. Quand Arnaud Montebourg fait valoir des lois sécuritaires contre la délinquance financière, Marine Le Pen ne le dirait pas autrement, si vous voulez. Manière et matière. La matière est différente. Comment soupçonner Arnaud Montebourg ? Ça n'a rien à voir. On est dans des antipodes politiques. La manière, parfois, est la même. Alors, il y a un problème, moi, qui m'a frappé sur cette différence entre manière et matière. C'est la fameuse affaire du mur des cons. Vous vous en souvenez, Paola ?
Oui.
Bien, écoutez.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. C'est bien votre quinquennat que je vais évoquer en vous parlant de justice pour tous et en interrogeant Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi sur la transparence de la vie publique qui a été adopté ce matin par le Conseil des ministres précise que toute personne dépositaire de l'autorité publique exerce sa mission avec, je cite, « dignité, probité et impartialité ». J'imagine donc que cela doit d'abord s'appliquer à ceux qui disent le droit et qui rendent la justice au nom du peuple français et non d'une idéologie partisane ou syndicale. Alors, que faut-il penser, Madame la Ministre, de la révélation du site Atlantico sur l'existence, je cite, d'un mur des cons rassemblant, rassurez-vous, il y en a chez vous, rassemblant des personnalités politiques, magistrats, policiers, journalistes, intellectuels et même, mes chers collègues, et même des parents de victimes. Un mur qui ressemble à une véritable liste noire, futur tableau de chasse du syndicat de la magistrature. Madame la ministre, nous sommes là face à une faute pénale au regard de l'injure publique constatée. Mais nous sommes surtout là face à une grave remise en cause de l'impartialité de la justice. Est-ce que les magistrats qui ont élaboré cette liste seront demain en mesure de rendre la justice en toute impartialité ? Est-ce que les coupables désignés par avance sur ce mur auront droit à une justice équitable ?
Donc on vient d'entendre Luc Châtel interpeller Christiane Taubira, le ministre de la Justice, à propos de l'affaire du mur des cons, parce qu'il n'y en a qu'un.
Oui, il n'y en a qu'un, oui. Alors, moi, je voulais qu'on entende ça pour illustrer cette question autour de la manière et de la matière, parce que ça me semble exemplaire, si vous voulez. Clément Weyrénal, donc le journaliste de France 3, auteur des images du mur des cons, filmé donc dans les locaux du syndicat de la magistrature, a été renvoyé devant une commission de discipline par le syndicat national des journalistes, qui rappelle que, à juste titre d'ailleurs, je les cite, hein, « l'utilisation d'images volées dans un lieu privé, en l'occurrence les locaux du syndicat de la magistrature, est contraire à la déontologie professionnelle la plus élémentaire ». Bon, on ne peut que souscrire à une telle assertion. On ne peut qu'être d'accord avec cela. Sauf que le problème, c'est que le même syndicat, le SNJ, avait apporté un soutien sans réserve à Mediapart au moment de la publication des conversations privées de Liliane Bettencourt. Et la question qu'on peut poser, qu'on leur pose d'ailleurs, c'est comment peut-on soutenir la publication de conversations privées et dénoncer la publication d'images filmées à l'intérieur du syndicat de la magistrature ? Il y a un problème de cohérence. Quand on dénonce le second, ce qu'on a raison de faire, il faut aussi dénoncer le premier. Alors, l'argument selon lequel n'ont été publiées des conversations de Mme Bettencourt que les extraits concernant l'affaire elle-même ne tient pas, puisque ça signifie de la part de ceux qui ont publié les extraits qu'ils avaient écouté la totalité de la conversation, ce qu'ils n'avaient pas à faire. Alors, personnellement, en plus, il me semble moins choquant, si vous voulez, même si ça l'est en un sens, de filmer un panneau dans le local d'un syndicat que d'écouter aux portes les conversations d'une vieille dame. Mais à la limite, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois soutenir le journaliste qui publie des conversations privées et condamner celui qui filme ce qu'il n'a pas à filmer. Soit on soutient les deux, soit on dénonce les deux. Or, parce que la manière est la même dans les deux cas. Ce sont les mêmes manières, ce sont les mêmes mauvaises manières. Mais, évidemment, et là je suis bien obligé de dire que Luc Chatel marque un point, la matière, elle, est différente. Parce que dit la matière ? Eh bien, c'est tout simplement que dans un cas, on a la mise en cause du syndicat de la magistrature et dans l'autre, on a le soupçon de financement d'une campagne électorale de l'UMP par une vieille dame milliardaire. Comme si vous voulez, voler pour la bonne cause ou piquer des conversations pour la bonne cause n'était plus un vol. La matière l'a emporté sur la manière. Et quand on a pu dénoncer le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures dans cette affaire-là, il me semble qu'implicitement on faisait référence à cette distinction montagnienne. Dans les deux cas de figure, dans ces deux formes identiques de déni du droit, la matière l'a emporté sur la manière. Le bien, ou l'idée que certains s'en faisaient, l'a emporté sur le droit. Alors moi, si vous voulez, maintenant que le truc est passé, je dis au SNJ, soyez sympa, répondez-nous. Donnez aux citoyens que nous sommes la possibilité de ne pas penser que vous ne traitez pas tout le monde à la même enseigne. Donnez aux gens de gauche la liberté de croire qu'il n'y a aucun rapport entre votre sévérité à l'endroit du journaliste qui a filmé le mur des cons et le fait que le syndicat de la magistrature soit lui-même plutôt à gauche. Parce que sinon, ça pose un vrai problème. Et cette distinction manière-matière me semble ici tout à fait illustrée. Au fond, c'est le même comportement. Mais comme l'intention n'est pas la même, on est plus indulgent avec les uns qu'avec les autres.
Bon, et bien, puisque l'heure tourne, Raphaël, je vais faire comme Montaigne, je vais aller à Sceaux et à Gambade.
À Sceaux et à Gambade, bravo Paola, vous avez tout compris.
J'ai dit
ne faites pas ça dans une disserte. Hein.
J'ai dit à Sceaux et à Gambade.
Mais je ne vous ai pas reprise, je vous approuve.
Ah,
allez-y donc.
pour parler, voilà, vous me faites perdre mes idées,
oui.
Pour parler du facteur. Un film de Massimo
Troisi, oui.
Avec Philippe Noiret en Pablo Neruda et un facteur qui discute de poésie. Et ce film nous montre comment si l'homme qui se croit intelligent peut dire des bêtises, ben, l'homme qu'on pense peut-être inculte peut dire des choses vraies.
C'est pas l'homme qu'on pense inculte, c'est l'homme qui est inculte. C'est le facteur, il connaît rien et il discute avec Pablo Neruda.
De poésie.
Et voilà, il parle de poésie. Vous avez tout à fait raison. Il y a un moment dans ce film où le je sais plus au terme de la discussion, hein, mais où le facteur lui dit « Mais alors, maître, ça veut dire que le monde entier est une grande métaphore ?» Et Noiret, Pablo Neruda, est bouleversé par cette sentence qui lui vient du fin fond de l'ingénuité, de la candeur absolue d'un homme qui aime les livres, qui vénère les livres et qui a constamment en lui le sentiment de n'en connaître aucun. Et c'est un livre-film pour cela, je crois, extraordinaire que vous avez tout à fait raison de citer, Paola.
Alors, je vais vous demander quelque chose de difficile, Raphaël, mais comme l'émission va vraiment toucher à sa fin, s'il fallait trouver une phrase, une injonction pour résumer le chapitre dont on a pris deux émissions pour essayer de parler.
S'il fallait faire tenir tout le chapitre en une phrase, ce serait penser contre soi-même, incontestablement. Puisqu'il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même l'évoquer, il y a un exemple très intéressant d'ailleurs là-dedans, c'est le fumier. Montaigne cite à un moment Erasme, « Stercus quique suum bene olet ». Chacun aime l'odeur de son fumier. En vérité, c'est une citation fausse. La vraie citation, la vraie phrase d'Erasme que Montaigne cite de mémoire, c'est « Suus quique crepitus bene olet ». Vous savez ce que c'est, crepitus ?
Non.
Le paix, la flatulence. Or, que dit Montaigne ici ? Que dit la phrase ? La phrase est « Chacun aime l'odeur de son fumier ». En d'autres termes, il n'y a que ses propres mauvaises odeurs que l'on supporte. On ne supporte pas celles des autres. C'est comme les enfants, si vous voulez. On ne supporte pas ceux des autres. Voilà. En revanche, on ne supporte que nos propres odeurs. Or, dit Montaigne, au fond, faut-il que nous éprouvions le besoin de vivre dans un monde familier pour être plus intelligents avec notre propre odeur qu'avec celle d'autrui ? L'enjeu de ce chapitre, faut-il que nous ayons peur de l'inconnu ? Montaigne est le fils Montaigne. Nietzsche est le fils de Montaigne quand il dit que l'instinct de connaître, c'est la peur de l'inconnu qui le dicte. Montaigne dit ceci, « Si nous avions bon nez, notre ordure devrait être pour nous plus puante que les autres, parce qu'elle est nôtre. » Vous vous souvenez, on en avait parlé la semaine dernière. « Autre et nôtre », on retrouve cette plasticité de la langue. C'est formidable, ça veut dire que vous savez, c'est comme les Dupont qui ont des barbes et des cheveux qui leur poussent parce qu'ils ont mangé un produit pourri. Et l'un des deux, qui est chevelu et barbu, regarde l'autre et lui dit « Ah, mon pauvre vieux, si tu te voyais !» C'est du génie, parce que ça veut dire qu'on trouve volontiers chez les autres des défauts qui sont en nous. Montaigne dit ceci « Nos yeux ne voient rien derrière nous. 100 fois par jour, nous nous moquons de nous sur la personne de notre voisin. » Et nous maudissons chez d'autres les défauts qui existent plus manifestement en nous, et nous nous en étonnons avec une extraordinaire impudence, sans nous apercevoir que nous les avons. Et pareil pour nos proches, comme nos flatulences ou nos excréments, si vous voulez. Nous sommes pleins d'indulgence pour nos proches. Montaigne cite à un moment Socrate. Il dit « Socrate est d'avis que celui qui se trouverait coupable avec son fils et un étranger de quelques violences et actes d'injustice devrait commencer par lui pour se présenter à la condamnation de la justice et pour implorer, pour se purifier, le secours de la main du bourreau et le demander en second lieu pour son fils et en dernier lieu pour l'étranger. » Penser contre soi-même, c'est également penser contre les siens, loin des siens. C'est l'antithèse, si vous voulez, de la phrase de Jean-Marie Le Pen, dont il avait fait son credo au début des années 80, « Je préfère ma fille à ma nièce à ma cousine, etc. etc. » C'est-à-dire une conception concentrique, précisément, de la famille. Montaigne enseigne exactement l'inverse. Il ne dit pas qu'il faut mépriser les nôtres, mais qu'au contraire, parce qu'on les aime, il faut ne pas être dupe de ce qu'ils nous disent. De la même manière, les odeurs qui viennent de nous, et la métaphore est très forte ici, les odeurs qui, parce qu'elles parlent à tout le monde. Il est vrai que nos propres odeurs nous sont plus supportables, nos propres mauvaises odeurs nous sont plus supportables que celles d'autrui. On ne supporte pas les mauvaises odeurs d'autrui. En revanche, les nôtres, on est plutôt indulgents, certains s'en régalent même. Bon, Montaigne est celui qui dit « si nous avions bon nez ». C'est-à-dire, si nous faisions fête à la vérité, nous penserions contre nous-mêmes. Et penser contre soi-même, quelle meilleure image pour un philosophe qui considère que le corps, contrairement à l'esprit, ne s'égare jamais. Quelle meilleure image pour qualifier le fait de penser contre soi-même que d'inviter les individus à détester davantage leur propre odeur que celle d'autrui.
Et à relire le chapitre sur l'art de la conversation de Montaigne.
Chapitre 8 du livre 3. Merci Paola.
Déjà 2 heures que je fais le pied devant sa porte comme un groom. Un peu d'air, celle-là. Je devais l'emmener souper. Dans un gridoum. En attendant, je fais des vents, des paix, des boums.
Voilà une chanson qui s'impose pour clore cette émission, cette deuxième émission sur Montaigne. C'est sûrement pas la dernière de l'année d'ailleurs. Merci Paola, merci à tous. Merci à Luc-Jean Reynaud, notre réalisateur. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez retrouver en ligne comme toutes les autres, sur notre site internet, à la page du Gai Savoir où vous attendent téléchargements, clips et bibliographies.
C'est un peu pour toi, pauvre clown. Elle t'a pété dans la main, cette fille-là, badaboum. En l'attendant, tu fais des vents, des paix, des boums.
Un grand merci, comme toujours, évidemment, à Julie-Marie Parmentier, notre lectrice, à notre technicien aujourd'hui, Pierre Mine, et enfin, bien sûr, naturellement, à Lys Ramon, notre attachée de production. Vive les essais de Montaigne, chers auditeurs. Si cette émission vous a donné l'envie, le goût de les relire ou de les lire, de vous y plonger un peu, alors nous n'avons pas perdu notre temps et vous non plus. Quelle matière, quelle manière dans ce livre magique, quelle merveille. 100 fois le Gai Savoir reviendra dans l'année dans ce grand livre pour y prélever des perles et en explorer les méandres limpides.
En l'attendant, tu fais des ventes, peu de boum.
Mais dans l'intervalle, retrouvez évidemment les nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Alors, tous les jours, hein, du lundi au vendredi de 10h à 11h, j'avoue humblement ne pas savoir de quoi les nouveaux chemins ont l'intention de vous parler cette semaine, mais je vous les recommande les yeux fermés et les oreilles ouvertes. À dimanche prochain, donc de 16h à 17h sur France Culture, où vous avez maintenant, comme c'est l'usage, rendez-vous avec Ali Rebéi du côté de chez soi.